Chapitre 18. L'amour de la sagesse, la philosophie. Dans ce chapitre, les grandes doctrines, les philosophes dans leur siècle. Dès l'origine, la philosophie en grec, amour de la sagesse, a puisé à plusieurs sources. D'Égypte fut importé le goût des mathématiques, de l'astronomie, de la médecine, de Mésopotamie la croyance au destin, ainsi que les rudiments d'une mentalité juridique, etc. Élevée au rang de discipline de la connaissance par excellence par les philosophes de la Grèce antique, elle s'épanouit ensuite dans tout le monde occidental, où les philosophes contribuent à faire évoluer, parfois au péril de leur vie, les mentalités de leurs contemporains. La philosophie antique. La philosophie antique pose les fondements de la philosophie jusqu'à nos jours. Par ses maîtres, tout d'abord, Socrate étant le plus connu, par ses efforts ensuite pour comprendre l'univers, dresser les premières catégories de pensée hors du mythe, de la magie et de la religion. C'est à une plongée dans l'origine même de notre réflexion qu'elle nous convie. Les Ioniens. C'est dans l'une des plus riches villes d'Ionie, Milète, que pour la première fois des hommes, en écartant les interprétations mythologiques ou surnaturelles du monde, cherchent à élaborer des explications des phénomènes naturels par le seul moyen de la raison. Ces premiers curieux de la nature, comme ils se nomment, prendront le nom de physiciens ou de physiologues en référence à la physis, la nature. Quatre noms dominent l'école de Milète. Thalès, Anaximandre, Anaxagore et Héraclite. Thalès. Ayant rapporté d'Égypte des faits mathématiques, Thalès, qui vécut au VIe siècle avant Jésus-Christ, est également considéré comme le père de l'astronomie. De sa doctrine philosophique, nous n'avons conservé aucun écrit. Il faut se fier à Aristote pour la retranscrire. À la différence d'Homère ou d'Hésiode, Thalès ne cherche pas à expliquer la nature par l'affrontement perpétuel des puissances divines. Il est le premier à laïciser la nature, le premier à chercher au phénomène une explication acceptable pour la raison. Alors que nos chimistes modernes distinguent près d'une centaine d'éléments dans la nature et que les alchimistes en comptent quatre, Thalès suppose qu'il n'en existe qu'un, l'eau. Sous différents aspects, celle-ci rend compte de la diversité de la matière. Le philosophe pense en effet que les différentes composantes de la nature sont en perpétuelle mutation. Soumise à l'action d'êtres pensants, l'eau se transforme alors en terre, en air, en feu. Le nom de Thalès reste attaché notamment au théorème de Thalès. Selon la légende, son application aurait permis de mesurer la hauteur des pyramides d'Égypte en partant du principe qu'à une certaine heure de la journée, l'ombre de tout objet devient égale à sa hauteur. Thalès fut aussi le premier à faire quelques constats dans le domaine de la cosmologie, établissant notamment le nombre de jours compris dans une année à 365 jours et un quart et non plus 365. Anaximandre. Disciple de Thalès, Anaximandre est le premier philosophe à laisser ses réflexions par écrit. Sur l'origine de la vie, il émet l'hypothèse suivante. Nourrice de la vie, la mer aurait laissé sortir de ses flots des êtres couverts d'écailles dont les hommes constitueraient la dernière étape de transformation. Se représentant la Terre comme un disque flottant, un fût de colonne dans l'infini, il détermine également la hauteur du soleil, c'est-à-dire l'angle qui sépare l'astre solaire du plan horizontal, mais aussi les solstices et les équinoxes, et passe pour le premier à avoir imaginé l'existence de sphères afin d'expliquer le mouvement des astres. Pour la première fois, un philosophe explique également comment se sont formés les quatre éléments de la physique ancienne, l'air, l'eau, la terre et le feu. Selon lui, l'univers tire son origine de la séparation des contraires de la matière primordiale. Le chaud se sépare du froid, puis le sec de l'humide. Selon lui, le principe de toute chose est un élément toujours identique à lui-même, sans qu'on puisse le comparer à l'air, au feu ou à l'eau. Anaxagore. Parce que celui-ci fut le premier à supposer que la raison n'existait pas en dehors du monde, mais au contraire faisait partie de lui, Hegel voyait en Anaxagore de Clazomène, qui vécut au Ve siècle avant Jésus-Christ, un précurseur lointain de la philosophie des Lumières. Appartenant au cercle éclairé qui entoure Périclès, le philosophe expose sa philosophie dans Périphyséos de la nature, dont ne subsistent aujourd'hui que quelques fragments. Selon lui, tout est issu d'un « je ne sais quoi » indéterminé et confus. Sa théorie, qui voit en tout corps un agrégat d'atomes, va ouvrir la voie à la philosophie atomiste de Démocrite. Héraclite. Souvent représenté comme un aristocrate déchu des fonctions de sa caste, Héraclite aurait vécu dans les premières décennies du 5e siècle, mais aucun fait ne vient corroborer cette hypothèse avec certitude. Il ne nous reste de lui que quelques fragments du seul livre qu'il semble avoir écrit, De la nature. Surnommé l'obscur en raison de l'opacité de sa pensée traduite dans un style poétique où abondent les formules paradoxales, il élabore une philosophie fondée sur les concepts de devenir et d'instabilité. De lui, on retient ainsi la célèbre formule « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve » et « la nuit succède au jour, la mort à la vie, le chaud au froid, le sec à l'humide, etc. » De cette série de contraires sont issus les êtres. Ainsi, Héraclite s'interroge-t-il sur la possibilité d'une coexistence entre multiplicité et unité, changement et stabilité.
N'oubliez pas, belle âme, c'est vers le milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ qu'apparaît le pythagorisme. Élaboré par un philosophe resté célèbre pour un théorème pourtant déjà connu des Babyloniens, Pythagore, cette doctrine prévoit un certain nombre d'interdits qui traduisent le désir de délivrer l'homme des illusions de la matière. Avant qu'elle ne trouve un écho dans le Phédon de Platon, les pythagoriciens sont ainsi les premiers à formuler la doctrine de l'immortalité de l'âme, ou, comme disent les Grecs, la palingénésie. Selon eux, l'âme aurait la possibilité de passer d'un corps à l'autre et d'échapper à la mort, en réintégrant celui d'un nouveau-né. Affirmant l'essence divine de l'être humain, cette doctrine séduisante se propage rapidement dans tout le monde antique, où elle résiste à la montée du christianisme. L'influence de Pythagore s'exerce aussi dans le domaine de la science, et plus exactement des mathématiques. Cherchant, comme les Ioniens, les lois secrètes qui régissent l'univers, il s'efforce ainsi de formuler les propriétés élémentaires des nombres. Sans son apport considérable, ni l'arithmétique, ni la géométrie moderne n'auraient pu se développer.
Les Éléates. C'est à Élée, dans le sud de l'Italie, que sont élaborés les fondements ontologiques de la pensée. À l'encontre des Ioniens, les Éléates affirment en effet l'identité et l'éternité de l'être. Par la suite, Platon s'attachera au principe de cette école dont procédera directement la théorie des idées. Celle-ci est dominée par deux figures principales, Parménide et Zénon d'Élée. Parménide. Au contraire d'Héraclite, Parménide, qui vécut au 5e siècle avant Jésus-Christ, affirme la permanence de l'être. Résumé en deux dilemmes par Aristote, sa métaphysique marque profondément la philosophie grecque. Elle peut se traduire ainsi. Il ne peut pas y avoir d'être nouveau, car s'il vient de l'être ancien, il était déjà là. Et il ne peut pas y avoir d'être différent, car ou bien la différence vient de l'être, ou bien elle est du non-être. De même, le philosophe exclut toute multiplicité en formulant le problème auquel se heurteront tous les autres philosophes du 5e siècle. Puisque l'être est un et immobile, comment se fait-il qu'il nous apparaisse multiple et changeant? Zénon d'Élée. À sa suite, Zénon d'Élée entreprend au IVe siècle avant Jésus-Christ de démontrer que la croyance au mouvement et au multiple amène des contradictions. Pour ce faire, il énonce quatre paradoxes, quatre arguments appelés apories de Zénon. Le plus connu est celui d'Achille et la tortue. Dans ce paradoxe, le héros grec Achille dispute une course à pied avec la tortue. Comme Achille est réputé être un coureur très rapide, il accorde gracieusement à son adversaire une avance de 100 mètres. Zénon affirme alors que le rapide Achille n'a jamais pu rattraper la tortue. Aristote le considérera comme le créateur de la dialectique.
Le saviez-vous ? À vos marques. Supposons, pour simplifier le raisonnement, que chaque concurrent court à vitesse constante, l'un très rapidement et l'autre très lentement. Au bout d'un certain temps, Achille aura comblé ses 100 mètres de retard et atteint le point de départ de la tortue. Mais pendant ce temps, la tortue aura parcouru une certaine distance, certes beaucoup plus courte, mais non nulle, disons 1 mètre. Cela demandera alors à Achille un temps supplémentaire pour parcourir cette distance, pendant lequel la tortue avancera encore plus loin. Et puis une autre durée avant d'atteindre ce troisième point, alors que la tortue aura encore progressé. Ainsi, toutes les fois où Achille atteint l'endroit où la tortue se trouvait, elle se retrouve encore plus loin. Par conséquent, le rapide Achille n'a jamais pu et ne pourra jamais rattraper la tortue.
Les atomistes. Loin d'Athènes et loin d'Élée, Leucippe et Démocrite tentent une conciliation des systèmes de pensée concurrents en fondant l'école atomiste. En expliquant les phénomènes naturels par la présence d'une multitude d'atomes se mouvant dans le vide selon des lois mécaniques, cette dernière s'efforce d'apporter une solution au problème de l'un et du multiple. Leucippe. L'originalité du fondateur de l'école d'Abdère, Leucippe, qui vécut à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, est d'admettre l'existence du non-être, du vide. Divisibles en particules infimes, mais irréductibles, les atomes constitutifs de l'être se meuvent dans le vide. Ce mouvement continuel est à la source de tout phénomène qui se produit dans la nature. Il ne peut en être autrement. Dans la conception atomiste du monde, le hasard n'a en effet aucune place. Seule la nécessité s'impose. Démocrite. Reprenant et développant les principes de base de la philosophie atomiste, Démocrite réaffirme à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ la nécessité des mécanismes fondamentaux de la nature sans lui assigner de fin. Ainsi soumise, comme toute chose en ce monde, au principe matérialiste, l'âme n'est-elle pour lui qu'un agrégat d'atomes. Les sophistes. Au milieu du Ve siècle avant Jésus-Christ, Athènes devient le centre politique et intellectuel de la Grèce. C'est durant cette période marquée par une agitation intense que les sophistes s'imposent. Les sophistes et leurs écrits nous sont mal connus. Dans la Grèce de l'époque, ce terme désigne quelques hommes habiles, les sophes, qui accordent toute leur attention aux problèmes du langage. La difficulté de leur étude tient essentiellement dans le fait de discerner une pensée sophistique, alors qu'ils sont loin, par leur différence de constituer une école philosophique. Ce qui les unit est leur genre de vie, leur fonction idéologique et sociale davantage que leur doctrine. Pour la plupart de conditions modestes, ils font de leur métier un de leurs moyens de subsistance. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont méprisés par les traditionalistes. L'apparition et les conditions du développement de la sophistique sont étroitement liées à la crise de la civilisation aristocratique. C'est pourquoi tous les sophistes sont favorables à la démocratie. Selon eux, l'accès au pouvoir doit passer nécessairement par la maîtrise parfaite du langage et de l'argumentation. Ils ne cherchent pas à transmettre un savoir, bien qu'ils semblent s'être intéressés à toutes ces branches, mais plutôt une formation politique du citoyen et une thaumaturgie du langage, c'est-à-dire un usage de sa puissance presque miraculeuse. Leurs principaux représentants sont Protagoras, Gorgias et Prodicos de Céos. Protagoras. Originaire d'Abdère, Protagoras, qui vécut au IVe siècle avant Jésus-Christ, devient disciple de Démocrite avant d'initier le mouvement sophistique. Son ouvrage le plus important est « La vérité ». S'inspirant des méthodes des philosophes d'Élée pour qui « rien n'est soi-même par soi-même un sur toute chose, il existe deux logos qui s'opposent l'un à l'autre », il développe la théorie du discours opposé avec thèse et antithèse et la méthode pour défendre ces deux points de vue. La nouveauté réside dans la façon de combiner les faits et les idées des autres pour obtenir une conclusion inverse. Ainsi, à propos de tout objet, on peut obtenir une série de propositions contradictoires. Partisan de la démocratie, il est un jour inquiété et banni d'Athènes pour l'agnosticisme qu'il prône. En ce qui concerne les dieux, je n'arrive pas à savoir ni qui ils sont, ni qui ils ne sont pas, dit-il. Il est aussi le seul sophiste à critiquer la religion. Ses autres œuvres sont « Sur les dieux », « Sur l'être », sur les mathématiques et sur la condition primitive de l'homme. Gorgias. Sans doute élève d'Empédocle, Gorgias naît en Sicile au IVe siècle avant Jésus-Christ. En 427, il est envoyé à Athènes pour plaider la cause de ses concitoyens du Leontium. C'est à cette occasion qu'il introduit la rhétorique, qui est l'art du discours. À travers l'éloge à Hélène, il démontre la puissance magique de la parole. Si Paris a convaincu Hélène, c'est par la parole qui, elle seule, est responsable de nos actes. Son traité du non-être établit trois points précis. Rien n'existe, S'il existe, il est insaisissable par l'homme. Dans le cas où il serait saisissable, il est inexplicable. Prodicos de Céos. Envoyé à Athènes, Prodicos de Céos, qui vécut au IVe siècle avant Jésus-Christ, y donne des conférences qui le rendent célèbre. Selon le témoignage de Cratyle, Socrate fut l'un de ses disciples. Son apport au vocabulaire est la distinction des mots synonymes. Platon se moqua de cette distinction entre les mots qui n'étaient que formels et où il n'y avait aucune analyse philosophique. C'est un moraliste, il est l'auteur du fameux Apologue qui représente Hercule ayant à choisir entre deux chemins, celui du plaisir et celui de la vertu. Socrate. Athénien de naissance, Socrate, qui vécut au IVe siècle avant Jésus-Christ, est le fils d'un sculpteur et d'une sage-femme. L'oracle de Delphes l'ayant proclamé le plus sage des hommes, il aurait répondu « Je ne sais rien de plus que les autres hommes, si ce n'est qu'ils croient savoir quelque chose et que je sais que je ne sais rien. » Dès lors, il tente de faire comprendre aux sophistes leur ignorance. À leur différence, Socrate ne se soucie pas de son apparence et de sa légendaire laideur. En 399, il est accusé par le parti démocratique de vouloir introduire de nouveaux dieux et de corrompre la jeunesse. Il est condamné à boire la ciguë. Socrate n'ayant rien écrit, il est difficile de distinguer son éventuelle méthode de celle de Platon. Il fait sienne la devise qu'il avait lue au fronton du temple de Delphes qui est « Connais-toi toi-même ». Contre les sophistes, il emploie l'ironie. Avec ses disciples, il emploie la maïeutique, l'accouchement des esprits, par allusion à sa mère sage-femme. Il amène ainsi ses élèves à découvrir la vérité par eux-mêmes, par l'induction socratique, procédé qui permet de la dégager à travers plusieurs choses dont on définit en quoi elles sont justes. Sa méthode est celle des sophistes. Il croit à la vertu de la raison et en son influence pour transformer les hommes de la cité. La particularité de Socrate est d'interroger et de questionner à travers le dialogue. La dialectique est son moyen d'action. Pas seulement pour interroger, mais pour éduquer les citoyens, les mettre en garde contre la politique des rhéteurs. Par rapport aux autres sophistes, Socrate entreprend de démontrer l'existence de Dieu. Il méprise certes la mythologie, mais point les dieux. Pourtant, c'est pour le motif d'impiété qu'il fut condamné. L'idéalisme platonicien. Né dans une famille de l'aristocratie au IVe siècle avant Jésus-Christ, Platon subit l'influence des sophistes et de Cratyle, disciple d'Héraclite. Grandissant dans le contexte de la révolution de la tyrannie des Trente qui hâte la décomposition de la démocratie, il s'attache à la compagnie du seul homme qui tente alors d'épurer la politique, Socrate. Grand voyageur, il se rend à Cyrène où il se familiarise avec les mathématiques. En Égypte et en Italie, il s'initie au pythagorisme. En Sicile, il essaie de faire de Denys Ier un roi philosophe, mais sans succès. En 387, il fonde son école au gymnase de l'Académie. Il meurt en 347. Le centre de son système philosophique repose sur la théorie des idées, qui fait la distinction entre le monde sensible et le monde intelligible. Face à la puissance des sophistes qui relativisent morale et vérité, le plus célèbre des élèves de Socrate oppose ainsi l'idée du bien. Par la vraie philosophie, il forge un moyen pour combattre les lacunes et les faiblesses de la société.
Le saviez-vous ? Une académie florissante. Durement marquée par la tyrannie des Trente, Platon affirme la nécessité d'une politique fondée sur la philosophie. Il crée alors l'académie, où sont enseignées la philosophie, les mathématiques, la politique et la médecine. Tirant son nom d'une promenade d'Athènes, ayant été léguée à la cité par un contemporain de Thésée, Académus, elle constitue l'ancêtre des académies modernes. Elle sert notamment de modèle à l'école palatine de Charlemagne et à l'Académie française, fondée au XVIIe siècle par Richelieu.
Un homme de dialogue. Son œuvre se présente sous la forme de dialogue dont Socrate est le personnage principal. En voici quelques-uns. Dans Hippias mineur, Socrate face aux sophistes feint de vouloir se faire instruire par eux. Pourtant, il est une thèse qu'il fait sienne, la vertu est la science. Dans l'Apologie, Platon tente de reconstituer les grandes lignes de la plaidoirie prononcée par Socrate devant ses juges. Le Lysis est un dialogue dont le thème central est l'amitié. Dans le Gorgias, Socrate essaye de définir et d'expliquer la rhétorique à Gorgias et Apollos. Dans la troisième partie du livre, Calliclès définit ce qu'est la justice. Dans le banquet se succèdent sept orateurs qui font l'éloge de l'amour comme méthode de connaissance. Le Phédon est un dialogue qui aborde le problème du devenir et de l'immortalité. Dans le Phèdre, Platon prolonge l'enquête sur la parole déjà entreprise dans Cratyle, le banquet, Phédon, et fait l'éloge du beau. Avec la République, Platon cherche les moyens d'atteindre la cité idéale et pour cela enquête sur la morale, la politique, la société, la justice. Timée et Critias sont la recherche de l'origine du monde. Le Théétète est un essai de définition de la science. La politique est un dialogue sur le politicien idéal. Les lois est le plus vaste des dialogues qui se déroulent en Crète. Sur la route, un Spartiate, un Crétois et un Athénien entreprennent de se rendre au sanctuaire de Zeus au mont Ida en empruntant la route de Knossos. Ces trois vieillards consacrent leur matinée à discuter de ce que doit être la législation, puis pendant les heures chaudes, l'organisation de la cité. Au-delà des apparences. La philosophie de Platon est dualiste. Elle repose sur le monde des idées et celui des apparences sensibles. Le second étant le reflet imparfait du premier, la vie sur Terre est un état d'impureté. Les formes ne peuvent être connues que par la pensée et non par les sens. Les essences universelles que l'esprit saisit ne peuvent exister dans les objets sensibles qui, eux, peuvent changer. Les idées sont donc des types éternels. Elles appartiennent à un monde suprasensible. Dans ce monde invisible dominent vérité et justice. La progression qui doit se produire dans notre esprit pour nous amener à la connaissance des idées est appelée par Platon ascension dialectique et comporte deux grandes étapes. La première consiste à se dégager des opinions établies et donc à mieux connaître le monde des apparences sensibles. La seconde consiste à accéder par une pensée discursive à la connaissance de choses de plus en plus réelles. C'est la connaissance raisonnée, puis s'élever jusqu'à atteindre l'illumination en contemplant l'idée du bien qui est l'intelligence. La théorie de l'âme. La philosophie platonicienne énonce aussi une théorie de l'âme. L'âme aurait péché dans une vie antérieure et, punie, elle aurait été précipitée dans un corps. Unie à lui, elle peut néanmoins lui survivre car elle est éternelle. C'est la thèse de la réminiscence. Pour Platon, toute connaissance est réminiscence, ainsi qu'il l'expose dans le Ménon ou dans le Phédon.
Un peu de technique. Les mots de l'idéalisme platonicien. Bien, c'est le divin, un principe suprême, supérieur à l'existence et à l'essence. Dialectique. C'est le mouvement par lequel l'âme s'élève, progressivement, par degrés, des apparences sensibles aux idées, pour atteindre enfin l'idée du bien. Dialogue. C'est la méthode philosophique où l'on opère par la voie du débat et de la discussion. Socrate apparaissant alors comme celui qui fait découvrir à l'interlocuteur sa vérité à travers le cheminement commun. Essence. C'est la réalité demeurant identique à elle-même et ignorant tout devenir. L'être véritable qui est idée. Idée. C'est la forme intelligible. Le modèle de toute chose, la réalité non perçue est néanmoins plus réelle que les êtres sensibles. L'idée fonde le phénomène et lui donne sens. Justice. Elle représente, dans l'âme humaine, l'ordre maintenant à sa place et à sa fonction chacune de nos forces intérieures. Dans l'État, la justice désigne le fait que chaque classe accomplit sa tâche et exécute sa fonction propre. Opinion. En grec, doxa. Connaissance inférieure, portant sur les objets du monde sensible, mixte entre la connaissance vraie et l'ignorance. Réminiscence. Pour Platon, l'âme, lors de l'incarnation, a oublié les idées. La connaissance consiste donc à se souvenir.
L'aristotélisme. Originaire de Stagire en Macédoine, Aristote est d'abord l'élève de Platon à Athènes. De 355 à 342, il demeure en Macédoine où le roi Philippe lui confie l'éducation de son fils Alexandre, alors âgé de 13 ans. Revenant à Athènes, il fonde sa propre école philosophique et lui donne le nom de Lycée, d'après un temple voisin consacré à Apollon Lycien, le tueur de loups. Il donne ses leçons en se promenant, d'où le nom utilisé pour désigner ses disciples de péripatéticiens, c'est-à-dire ceux qui se promènent de long en large. N'admettant pas la théorie des idées, Aristote rompt avec le platonisme. Si Platon tourne les yeux vers le ciel a des idées. Aristote regarde la terre et réhabilite l'expérience du sensible. Il est le créateur de l'art du raisonnement, la dialectique. Cependant, il ne s'agit plus de celle de son maître Platon, mais d'une conception nouvelle qui rejette l'opposition existante entre opinion et vérité. Sa méthode, exposée dans ses ouvrages de logique, consiste en un filtrage étroit des opinions jusqu'au jaillissement de la vérité. Un esprit fécond. Fort nombreux, ses ouvrages recoupent une classification des sciences qui distingue les sciences théoriques dont il est question dans la physique, l'histoire des animaux, le traité de l'âme, la métaphysique. Les sciences théoriques sont toutes sciences dont le but est la connaissance pour la connaissance. Les sciences pratiques dont il est question dans l'éthique à Nicomaque, dédiée à son fils, dans la politique et l'économie. La finalité des sciences pratiques réside dans la connaissance pour aboutir à l'action. Les sciences poétiques dont il est question dans la rhétorique, la logique, un ouvrage composé de plusieurs traités. Les premiers analytiques qui ont pour objet le syllogisme et les seconds analytiques qui présentent la démonstration. La finalité des sciences poétiques est de connaître pour s'exprimer. La logique avant tout. L'aristotélisme se résume à une suite de démarches progressives qui commencent d'abord par la logique. Le syllogisme est la méthode qui permet dans un discours ou une discussion de déterminer quels sont les raisonnements valables. Ce mot avait déjà été utilisé par Platon dans le Théète, dans le sens où l'on joint plusieurs discours comme A appartient à B, C appartient à A, donc C appartient à B. L'esprit est donc contraint de passer de deux vérités établies à une troisième. Le syllogisme ou déduction constitue la première condition permettant d'aboutir à des propositions vraies. La seconde est l'induction. La métaphysique ou philosophie première. Aristote est aussi l'artisan de la métaphysique. Comparativement aux autres sciences, par exemple la physique, qui s'occupe de phénomènes changeants et matériels, c'est-à-dire accidentels, la métaphysique, science suprême, s'occupe d'objets immuables et immatériels, autrement dit de leur substance. La place des êtres dans le monde dépend de la perfection de leur forme. Aux échelons supérieurs de la hiérarchie se trouve l'homme dont l'âme est spirituelle. Celle des animaux est sensitive et celle des plantes, végétative.
Un peu de technique. Les mots de l'aristotélisme. Accident est ce qui ne fait pas partie de l'essence d'une chose et n'appartient pas à sa définition. Acte, c'est le fait d'exister comme être pleinement réalisé et achevé. Catharsis ou purgation. C'est la purification des émotions effectuées au moyen de l'art, et tout particulièrement grâce à la crainte et à la pitié émanant du récit tragique, de la tragédie. Cette dernière permet de décharger les émotions. Forme, c'est ce qui, dans l'objet, est intelligible et lui confère telle essence. La forme n'est pas soumise au devenir. C'est un principe métaphysique d'organisation de la matière. Induction. C'est le passage des cas particuliers à l'universel. Matière, c'est la potentialité pure que la forme actualise. La matière et la forme se rapportent l'une à l'autre. Substance, c'est la réalité sans laquelle les autres ne peuvent être. La catégorie première, l'être qui se suffit à lui-même, le sujet ultime, celui qui n'est plus affirmé d'aucun autre. Syllogisme, discours dans lequel, certaines choses étant posées, quelque chose d'autre que ces données en résulte nécessairement par le seul fait de ces données.